Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Cette semaine, Antoine, j'ai conduit le Chevrolet Silverado 2500 et je l'ai conduit comme beaucoup de conducteurs de pick-up, c'est-à-dire moi seul à bord avec aucune charge à l'arrière. Non, blague à part, effectivement, c'est l'utilisation que j'en ai faite. Et tout au long de l'essai qui s'est étiré là, sur plus de 1000 km, parce que c'est avec ce véhicule-là que je suis allé voir le Ford F-150 électrique, ce que je trouvais très ironique, soit ouais. dit en passant. Et tout ce qui me venait en tête, c'est que c'est moins confortable qu'un F-250, puis c'est encore moins confortable qu'un Ram 2500. Je n'enlève aucune capacité.
Oh Seigneur, t'es certain? Parce que
absolument.
Un Ram 2500 à l'âge, ça brasse son homme. Là.
Ça brasse, mais le Silverado, je me suis fait brasser.
Et avec quelle version?
Ben voilà, donc c'était une version High Country, donc une version très bien équipée, c'est-à-dire avec le V8 6.6 litres Duramax, donc mécanique diesel. Et ça, j'aurais à dire. Hein? Les mécaniques du Ramax, c'est très, très, très efficace. Et j'ai fini avec 14 litres au 100. Là. Donc, c'est assez exceptionnel.
Ce qui est beaucoup considérant que tu roulais à l'aige.
Oui, que je roulais à l'aige, mais en même temps, on a un camion qui est super pesant et la mécanique, en soi, elle est très grosse. Là. La cylindrée, elle est
non,
très
non,
grosse.
Non, je sais,
là.
Mais c'est... t'as pas nécessairement été doux avec, là, parce que t'es capable de faire mieux que ça, c'est clair.
Beaucoup d'autoroutes, régulateur à 120, et effectivement, ça ressemblait à 14 litres au 100.
Germain, j'apporte ton attention. On va le dire aux gens, là, parce que ça, c'est les joies de faire une émission.
Les gens ne le voient pas. Là,
les gens ne le voient pas, mais on a un écran devant nous. Oui. Et là, il vient de passer une pub de briques, pour la vente d'après Noël.
Ah! Peut-être que
est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer?
C'est une bonne question.
Parce que je reviens au début de l'émission où je parlais du match de hockey.
Et de la fête
nationale. Et j'ai vu cette pub-là hier, c'est la vente d'après Noël de briques.
Peut-être que c'est la vente d'après Noël du campeur.
Peut-être. Oui. Mais salutations aux gens de briques. On ne l'a pas compris. Puis Noël, c'était il y a 6 mois.
Oui. On revient à notre mouton qui est le Silverado.
Ouais.
Et,
qui est très pratique pour aller chercher des meubles en passant.
Oui, très pratique. Ouais. Très pratique. Et ce qui est quand même intéressant de mentionner, parce que, bon, oui, la mécanique diesel qui est très efficace, mais elle est coûteuse aussi. Parce que l'option du moteur à essence vers le moteur diesel, en fonction de la version qu'on choisit, c'est entre 10 et 12 000 $ Donc, et ce jeu-là est beaucoup plus grand qu'avec une camionnette 1500, par exemple, où l'option ne sera pas aussi élevée. Là.
Mais là-dessus, je vais répliquer en disant, c'est vrai sur l'achat initial, mais à la revente, tu récupères tout.
Absolument.
Tu récupères tout. Parce que un V8 à essence dans ce genre de camion-là, ça consomme tellement que là, un contracteur, par exemple, ou quelqu'un qui achèterait un HD pour des besoins spécifiques, parce que tu n'achètes pas un HD si tu n'en as pas besoin, tu vas toujours préférer aller chercher le diesel. De toute façon, le plus clair des ventes se font avec les moteurs diesel.
Absolument.
Autant chez Ford, chez Ram que chez GM. Et tu sais, dans les trois cas, on a des mécaniques diesel extrêmement performantes.
Ouais.
Ford a renouvelé ses mécaniques Power Stroke récemment. Le Cummins chez Ram, c'est extraordinaire. C'est fort comme un bœuf.
Et c'est des moteurs qui vont tourner là, des centaines de milliers de kilomètres. Là.
Mais il y a le moteur Duramax, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait l'entretien prescrit sur ces moteurs-là qui font face à une problématique. Les injecteurs, si ça n'a pas été entretenu adéquatement au niveau des filtres à essence, des filtres à diesel, si ça n'a pas été entretenu adéquatement, tu dois remplacer tes injecteurs à 150-200 000 km et c'est un job de 10 000 $ faire ça.
OK, donc il faut le prévoir.
Faut que tu fasses tes entretiens. Si tu fais tes entretiens, tu n'auras pas de problème. Mais sinon, les injecteurs deviennent défectueux. Et si
tu achètes un véhicule d'occasion, il faut avoir confiance en la personne qui nous le vend pour avoir le ou le faire respecter comme il faut.
C'est
le
point que j'apprends depuis. J'entends beaucoup parler des moteurs Duramax avec les problèmes d'injecteurs. C'est un problème de plus en plus connu. Alors, sachez qu'il y a un entretien périodique à faire là-dessus qui n'est pas nécessairement très coûteux. Il faut juste le faire. C'est ça.
Un dernier mot en terminant. Des à-coups dans la transmission continuellement. Donc, ça, c'était décevant. Je dis pas que la transmission n'est pas solide, mais quand on le conduit, on sent les à-coups continuellement.
Sauf que, tu sais, moi, ouais. essayer des camions comme ça, ouais. à l'aige, c'est vraiment pas l'idéal. Ça, il faut remorquer, il faut charger, c'est là que tu vois, puis effectuer un exercice de comparaison avec les trois camions en même temps, c'est ouais. là que tu vois vraiment les différences. GM, c'est sûr que c'est des camions qui ont peut-être un peu moins évolué que du côté de Ford, où là, on a mis des nouvelles mécaniques, des nouvelles technologies.
Mais en même temps, c'est efficace.
C'est très efficace. Puis, c'est encore ceux qui ont les habitacles les moins convaincus.
Ah, ça, j'ai pas le choix de l'admettre. Là. Même si c'était une version là, High Country, tout équipé, en dedans, là, ça fait un peu dur. Là.
Hein? Sur, à comparer d'un Ford puis d'un Ram. Là,
ben, pour une version...
Parce que ce que tu avais, c'est un camion de 100-110 000 $.
Oui, ça. Effectivement. Donc, tu sais, pour une version d'entrée de gamme, j'en aurais pas fait de cas. Mais quand on est rendu dans ces sphères-là, c'est sûr... que le Ram puis le Ford, ils sont plus beaux. Puis je les ai conduits l'année dernière. C'est nettement plus beau. C'est nettement plus beau. Mais bon, est-ce qu'on veut de la beauté ou on veut travailler?
C'est puis, tu sais, c'est des camions qui coûtent cher, mais qui sont beaucoup plus rentables que n'importe quel autre véhicule de 100 000 $ que vous pourriez vous acheter.
Ça, effectivement.
Ça, là-dessus, il n'y a pas un mot.
De ton côté, tu as conduit une voiture que je trouve magnifique.
Mais qui n'est vraiment pas rentable. Ça,
non,
c'est
ça,
sûr,
effectivement,
parce que...
c'est un gouffre financier un petit peu plus grand. C'est la Volkswagen Arteon.
Ben, en fait, c'est pas compliqué. Voiture magnifique, tu l'as dit. Ligne extraordinaire, très confortable. J'aime beaucoup l'aménagement, les retouches esthétiques qu'on a fait à l'intérieur. Il y a une seule version disponible pour cette année. Elle coûte 53 000 $ avant les frais de transport préparation. Puis ça explique pourquoi on n'en vend pas. Parce que à ce prix-là, tu peux obtenir, ou en fait, pour à peu près le même paiement de location, même un peu moins cher, tu vas avoir une Audi A4 équivalente qui a une meilleure valeur résiduelle. Et Volkswagen est pris avec ses Arteon.
C'est le calcul que bien les consommateurs font, là.
Mais c'est une voiture à ne pas renier. C'est une voiture 5 portes. Coffre gigantesque, beaucoup d'espace à l'arrière, très confortable pour sur la longue route. Ça consomme pas trop. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une boîte DSG, il y a une 8 vitesses conventionnelle, donc c'est peut-être pas aussi sportif qu'on le voudrait des fois. Et c'est un moteur 4 cylindres, hein? Contrairement à sa rivale qui, à prix égal, va t'offrir un V6 plus puissant qui est la Kia Stinger.
Et je peux comprendre que ça refroidisse certains consommateurs.
Oui, c'est cher pour ce que c'est.
Psychologiquement, c'est difficile d'imaginer un moteur à 4 cylindres dans une, entre guillemets, grosse voiture comme ça. Même si le rendement est là et la puissance et tout ce que tu veux est là.
Mais tu sais, c'est une voiture raffinée, c'est une voiture magnifique.
On lui enlève rien.
Puis on a le même problème avec cette auto-là qu'on avait à l'époque avec la Phaeton. C'est-à-dire que c'est une voiture qui mériterait d'avoir une badge plus prestigieuse, mais qui porte l'emblème Volkswagen et qui se vend au prix d'une voiture plus prestigieuse, qui explique pourquoi les gens ne l'achètent pas. Mais dans les faits, c'est une voiture qui a rien à envier, honnêtement, en termes de confort. Tu sais, moi, je préfère beaucoup conduire cette voiture-là à une Kia Stinger qui n'offre pas ce niveau de raffinement qu'on va retrouver dans l'Arteon. Je trouve que c'est une voiture qui se distingue, qui est vraiment magnifique. Je les regarde sur le marché d'occasion. Tu peux dénicher un 2019 pour à peu près 35 000 $. Je trouve que c'est une sacrée aubaine versus un modèle neuf que tu vas payer avec les frais de transport 55 000. C'est trop cher. C'est ça le problème de cette auto-là. Parce que sinon, c'est une sacrée voiture. Et c'est dommage. On va l'abandonner.
Ben oui, effectivement, parce que ça doit. Il n'y a aucune rentabilité qui doit être associé à cette voiture-là, c'est d'une évidence. Évidence. Puis, bon, je le disais en présentant la voiture, c'est une voiture qui est magnifique, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est magnifique? C'est qu'on n'en voit pas. C'est ça aussi. Il y a une exclusivité.
Puis que la forme de sa carrosserie est non conventionnelle par rapport à ce qu'on va offrir ailleurs.
Elle
ne
ressemble pas à la Passat. Tu sais,
c'est pas une Passat, non. C'est pas une Audi.
Tu sais, la Passat C6, c'était une très belle voiture, mais on savait que c'était une Passat.
Ah, puis encore, la Passat C6, c'était une très belle voiture. Oui. Elle avait fait son temps, c'est tout.
Oui. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est encore plus distinguée par rapport à la Passat.
Ah, vraiment. Et c'est vraiment une très, très belle voiture. Puis dommage qu'on l'abandonne. En fait, c'est peut-être même la dernière année. Ouais. On verra. Parce qu'à 350 unités vendues au Canada, à 3600 unités vendues aux États-Unis, c'est 4 fois moins que la Kia Stinger. Et c'est 3 fois moins que la Porsche 911.
Oui. Et la Kia Stinger qui n'est pas une voiture à grand volume non
Kia
plus.
Même Kia pense
là.
L'abandonner. Alors, ça te donne une idée.
Oui, effectivement, la comparaison est très bonne.
C'est probablement la dernière fois que je conduisais une Arteon et c'est bien dommage.